De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour, nous n'avons pas pu voir le dernier Woody Allen parce que tout le monde dans l'équipe a laissé tomber le cinéaste new-yorkais. On garde pour la semaine prochaine l'incursion de James Gray dans la SF, ce qui ne nous empêche pas cette semaine d'avoir 6 films et 2 interviews à vous proposer. Et puis toi Marine, t'as la moitié du programme.
Oui, tout à fait. Moi je vais déjà vous parler du nouveau Clapiche, 2 mois. Également ensuite donc 2 interviews que tu as réalisées Vincent, la première de Céline Sciamma pour Portrait d'une jeune fille en feu à Cannes dont je vais vous parler. Et une seconde interview de Avzia Erdi pour Tu mérites, un amour que j'ai beaucoup aimé.
Et puis toi Manu, encore un film de Frousse.
Ça 2, donc la suite de ça. Et puis je vous parlerai d'un documentaire, Kusama Infinity.
Et puis moi je vous parlerai des Fleurs amères de Olivier Metz, un film belge assez précieux. Et puis on va commencer avec Cédric Clapiche qui reprend 2 acteurs de son précédent film pour 2 mois.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinérama.
Nous reviendrons aux questions plus tard.
Bonjour.
Bonjour. J'ai un problème de sommeil. Est-ce que j'ai un sommeil tout le temps?
Je dors pas bien du tout.
Mélanie et Rémi, respectivement interprétés par Anna Girardot et François Civil, sont voisins, mais ne le savent pas. Ils vivent dans la même rue à Paris, elle est chercheuse. Ils travaillent dans la grande distribution. Ils ont beau avoir 30 ans, ils sont chacun à leur manière assez malheureux dans leur vie et assez seuls dans cette grande ville. Alors tous les jours, ils se croisent dans leur quartier, dans les transports, sans jamais se rencontrer. Bon, j'ai un peu de mal à croire que l'on puisse croiser François Civil tous les jours sans le remarquer, mais bon, passons. Mélanie a du mal à se remettre de sa précédente relation, tandis que Rémi se complaît dans une culpabilité permanente. Et chacun va donc décider d'entamer une psychothérapie pour régler son mal-être, tout en tentant de rencontrer l'âme sœur. Elle, grâce aux réseaux sociaux, et lui, sur son lieu de travail.
Vous vous dites que c'était une vraie rencontre?
Mais c'est quoi pour vous une vraie rencontre?
Comment vous expliquez cette crise de panique dans le métro?
Une dépression?
Peut-être.
Non mais c'est quand même dingue de tomber sur quelqu'un qui a vraiment, vraiment, mais rien à dire. Il n'a pas parlé pendant 1 heure. Ah, si, à un moment donné, il m'a dit...
J'ai l'impression que ça fait des années que je te cherche, quoi.
L'angoisse? Il ne suffit pas d'avoir compris le problème pour pouvoir régler le problème. Et en même temps, il est absolument nécessaire d'avoir compris le problème pour pouvoir le régler. Le problème.
Cédric Clapiche nous offre la psychanalyse d'une génération pendant que ses personnages sont sur le divan. C'est toute une époque qu'ils sondent et qu'ils analysent. En cinéaste de l'humain, il pose un regard bienveillant sur cette jeunesse victime d'une modernité qui exclut la communication entre les êtres. S'il y a une chose dans laquelle Clapiche excelle, c'est bien l'écriture de ses personnages qui le rend toujours complexe et toujours attachant. Il réussit à nous mettre face à nos préjugés, nous, spectateurs, qui pensons avoir saisi dès les premières scènes l'essence de tel ou tel personnage, en nous emmenant là où on ne s'y attend pas. Après avoir posé sa caméra au milieu d'une famille de vignerons dans Ce qui nous lie, il reprend les mêmes comédiens qui interprétaient alors un frère et une sœur, Anna Girardot et François Civil, et les jette dans la confusion de la capitale. La mise en scène, qui repose beaucoup sur le découpage de l'espace pour symboliser ces 2 solitudes qui ne se rencontrent jamais, est excellente. Le montage, qui lui découpe le temps, est très efficace également, bien que le film ne soit pas d'un rythme trépidant. L'écriture, la réalisation, la direction d'acteurs font de 2 mois un long métrage attachant, sensible, auquel on repense beaucoup ensuite, et ça je crois que c'est souvent un bon signe. J'ai quelques réserves, en revanche, quant au fond du film, quant au message qu'il martèle de façon un peu trop appuyée à mon goût. On ressent à chaque image que Clapiche a voulu faire un énième film générationnel, après Le Péril jeune, après L'Auberge espagnole, et j'en passe, et ça n'est pas toujours très très subtil. Dans 2 mois, le cinéaste nous balance une pluie de références à notre époque pour bien nous faire comprendre qu'il a senti l'air du temps. De même que le message martelé par le film n'est vraiment pas très novateur. Je pense notamment à la scène où le personnage de Mélanie est sur une appli de rencontre pendant que son amie, elle, commande sur son téléphone de la nourriture. Tout cela pour bien nous rappeler que nous sommes dans une ère de la consommation où l'on consomme même l'humain et que nous avons beau être hyper connectés, nous n'avons jamais été aussi seuls. Je crois que ce discours est presque déjà dépassé en 2019, mais je ne doute pas que Cédric Clapiche fera mieux dans son prochain film générationnel.
Deux mois de Cédric Clapiche est en salle depuis le 11 septembre. C'est le cas aussi du film Ça, chapitre 2. Alors, est-ce que ça met la frousse? On va le savoir avec toi, Manu.
Comment faites-vous pour choisir un film?
Cinérama.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Précisez.
Il se passe un truc bizarre quand on quitte cette ville. Plus on s'éloigne, plus les souvenirs deviennent flous. Mais moi, je suis jamais parti. Je me souviens de tout.
Petit !
Il y a quelqu'un ?
Petit !
Voilà pour l'ambiance.
Oui. Alors l'attente de cette deuxième partie était énorme, enfin auprès des fans surtout. Hein. Après une entrée en matière classique pour le premier, qui par commodité se concentrait uniquement sur l'enfance des protagonistes, permettant alors de développer un univers émouvant, très en vogue à l'heure actuelle, depuis le succès de Super 8, et puis surtout de la série Stranger Things. Alors presque, une partie presque autonome par rapport au roman fleuve de Stephen King, dont la richesse thématique demeure l'une des problématiques majeures d'une adaptation réussie sur grand écran. Alors souvenez-vous, en 90, le téléaste Tommy Lee Wallace s'y était cassé les dents avec un téléfilm illustratif et sans envergure, malgré la présence terrorisante du clown incarné par un Tim Curry très effrayant. Alors, cette deuxième mouture, d'une durée, on va dire, quand même excessive de 2h50, commence là où le roman débutait, comme si finalement le précédent opus n'était qu'une agréable mise en bouche. Elle reprend par ailleurs la structure narrative alternée sur deux époques. D'anciens amis d'enfance traumatisés par un secret reçoivent un appel de l'un d'entre eux qui les convie à revenir dans leur ville natale, là où tout a commencé, afin de respecter le pacte qu'ils ont prononcé quand ils étaient gamins, lors d'une séquence qui clôturait le premier chapitre. Alors cette demande pressante n'est pas fortuite. Le clown Pennywise, ou Gripsou en français, est de retour, entité qui avait pris possession de Perry durant l'été de leurs 12 ans. Alors cette entité, appelée aussi Ça, a tué le frère cadet d'un des membres de la bande qui se sont appelés le club des ratés par autodérision, permettant alors une forte identification auprès d'un public geek ou tout simplement de losers, toute époque confondue. En proie à des cauchemars, à des souvenirs occultés refaisant surface, ce groupe d'amis, aujourd'hui âgés d'une quarantaine d'années, vont unir leurs forces pour éradiquer Pennywise.
On a fait un serment.
On le jure tous. Si ça est pas mort, si ça revient un jour, on reviendra aussi.
On n'a pas réussi à le battre.
Gripsou.
Le clone. On peut pas le laisser recommencer.
Y a quelqu'un ?
Pendant 27 ans, j'ai rêvé de vous. J'ai eu faim de vous. Vous m'avez trop manqué!
Alors le réalisateur argentin Andrés Muschietti, alors auteur d'un honorable Mama qui avait raflé le Grand Prix à Gérard Mer en 2013, parvient-il à retrouver le charme de la première partie, hommage à peine voilé au cinéma doudou des années 80 produit par Steven Spielberg? Alors non, pas vraiment, mais les enjeux sont ailleurs, au cœur d'un récit d'une très grande noirceur, décrivant une galerie de personnages névrosés, mal dans leur peau, jamais remis de leurs aventures terrifiantes situées au tout début des années 90. Alors chacun possède une fêlure, un trauma, qu'il devra affronter afin de combattre les ténèbres. En ce sens, ce scénario retrouve l'esprit tortueux du roman ambitieux de Stephen King, qui fait d'ailleurs une apparition furtive en brocanteur. Alors s'ensuit une série de séquences impressionnantes où nos héros vont se retrouver à lutter contre leurs peurs enfantines via quelques moments de flip réellement intenses. Alors on retiendra particulièrement celui où Jessica Chastain retourne chez son père décédé depuis et se retrouve face à une petite vieille inquiétante. Alors un instant fugace d'effroi teinté d'ironie mordante rappelant le génial The Visit. Mais cette virtuosité graphique, alliée à un sens réel de la mise en scène qui s'écarte des canons télévisuels, n'est hélas pas reliée par une ossature convaincante qui articulerait de façon cohérente les relations entre les personnages. On a la fâcheuse impression d'assister, on va dire, d'une suite de mini-sketchs, alors remarquablement exécutés, mais sans colonne vertébrale, hormis celle de la figure terrifiante du clown. La dernière partie, qui voit ses rescapés s'unir pour aller détruire le clown, sont malheureusement dans les pires travers du cinéma d'horreur contemporain, avec déluge d'effets numériques, musique envahissante, humour lourdingue, alors désamorçant le suspense, des jumpscares à foison en fait. Alors même les effets gore très réussis tombent à plat. Le combat titanesque contre le clown transformé en araignée géante ressemble bizarrement à un épisode d'Harry Potter en plus sombre et violent, mais tout aussi inoffensif au final. Alors tout ça ne retrouve jamais le climat anxiogène et mélancolique du livre. Alors, ou des enfants d'ailleurs dans le livre, dans des corps d'adultes, ça donnerait une sorte de jeu de rôle auquel on ne croit guère. Enfin, l'aspect le plus émouvant du roman, hein, soit l'histoire d'amour entre la seule fille du groupe et son mystérieux soupirant lui ayant écrit des poèmes, ne fonctionne pas du tout, totalement évincé par la lourdeur de cette grosse production qui débutait bien mais s'avère décevante au final. Alors en dépit du talent du cinéaste, hein, qui s'est pourtant donné du souffle à son histoire grâce à une très grande maîtrise technique, hein, alliant un montage habile à des envolées lyriques d'une caméra très mobile, ben, le film reste un petit peu décevant pour clore on va dire cette fresque horrifique.
Et un peu long, si j'ai bien compris.
Ça fait 5 heures en tout, quasiment. Hein.
Allez, première interview de cette émission, celle de Céline Sciamma, réalisatrice de Portrait de la jeune fille en feu, hein, ce film qui est présélectionné pour concourir aux Oscars 2020 et qui a remporté un prix à Cannes.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Mais tâchez de faire vite.
Ovationné à Cannes, où j'ai eu la chance de le voir et de penser à tort, hein, qu'il était un sérieux candidat pour la Palme d'Or puisqu'il ne l'a pas eu, Portrait de la jeune fille en feu, le nouveau film de Céline Sciamma, est de ceux qui impriment durablement la rétine et le cœur. Une histoire d'amour saphique entre une peintre et son modèle au XVIIIe siècle, interprétée à la perfection par Noémie Merlant et Adèle Haenel, qui, en dehors des turpitudes de cette relation, eh bien, parle aussi d'émancipation dans une société d'antan où les femmes ne choisissaient pas leur destin. Le film se déroule selon une sorte de crescendo du désir, puisque l'histoire d'amour entre les deux femmes advient à une époque où de tels penchants étaient bien sûr interdits. Le rythme est lent, très lent, mais croyez-moi, ça vaut la peine de ne pas s'endormir. Avec pas mal d'audace, le film se laisse imprégner ça et là d'éléments du cinéma fantastique, sans que cela en fasse pour autant un film de genre. Céline Sciamma a eu la bonne idée d'insérer dans son film en costume, pourtant de facture très classique, des fantômes, des phénomènes inexpliqués, et on ne peut que se réjouir de ce choix de mise en scène qui se retrouve par ailleurs ces derniers temps dans plusieurs films français, au point que l'on pouvait quasiment parler d'une tendance, hein, du cinéma de genre à venir s'inviter dans le cinéma d'auteur. On écoute justement Céline Sciamma au micro de Cinérama qui a été interviewée lors du dernier festival de Cannes.
L'homme intéressé par ma fille est Mélanin. Nous partons là-bas si le portrait lui plaît.
Vous partirez.
Il faut que vous sachiez une chose. Elle a épuisé déjà un peintre avant vous. Elle a refusé d'épouser. Il n'a jamais vu son visage.
C'est l'envie de faire un film d'amour ? Un film d'amour au sens large, c'est-à-dire un film qui à la fois raconte une histoire d'amour, raconte même pas à pas ce que c'est que tomber amoureux, et puis raconte aussi l'amplitude d'une histoire d'amour, c'est-à-dire sa trace, son empreinte. Et voilà, le film est construit, pensé, autour de ces deux pôles, ces deux cœurs, sans vouloir en choisir aucun. Et puis il y a aussi le projet de parler des artistes femmes, des peintres femmes et des artistes femmes en général. Voilà, c'est un peu les deux cœurs ou les trois cœurs du film qui s'est construit longtemps. Voilà, ça fait 5 ans que j'avais pas fait de film et je l'avais en tête. C'est un film qui s'est écrit sur une période de 3 ans en cherchant justement la forme, l'alchimie, l'équilibre ou les déséquilibres entre ces différentes idées.
Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte?
Parce qu'elle refuse ce mariage. Vous allez devoir la peindre sans qu'elle le sache. Elle pense que vous êtes une compagne de promenade pour quelques jours.
Elle pense que je suis là pour la surveiller.
Et vous, vous la regardez. Vous vous sentez capable de faire le tableau de cette manière?
Il y avait la question de l'époque. Il y avait une envie d'époque, mais il y avait une envie de faire un film sur le souvenir, mais pas seulement. Il y avait envie d'une résonance actuelle. On parlait d'inventer notre 2018e siècle. Enfin, voilà, donc je pense qu'il y avait une vraie envie d'inventer, de chercher. Et après, évidemment, beaucoup... je ne sais pas, quand on fait un film comme ça, on parle beaucoup de beauté. Alors, il y avait évidemment la peinture qu'il fallait mettre de côté. Donc je pense que finalement, on a plus aidé, forcément aidé par la peinture, mais d'autres, finalement un peu d'autres époques, ou en tout cas de quelque chose qui se dégage. Moi, j'ai l'impression... Moi, j'aimais bien pour que le film soit, je sais pas, trouve son image sans être, en étant simple, sans être totalement réaliste. Je sais pas, il y a quelque chose que j'aimais bien finalement. Et je trouve que la peinture aide, quelque chose où c'est finalement pas la lumière ou la direction de la lumière ou la couleur de la lumière qui importe, mais qui est finalement la lumière et la couleur de leur carnation, de leurs étoffes, je sais pas, comme si la lumière émanait d'elle. Je sais pas, quelque chose comme ça qui, je crois, fait partie un peu de, en tout cas, des peintures qu'on appréciait, des portraits de peintures qu'on appréciait. Et enfin, voilà, et ça, c'était entre, enfin, voilà, de faire émaner la lumière d'elle et de les aimer beaucoup.
Je suis venue pour vous peindre.
C'était donc ça, vos regards.
J'ai réfléchi à cette scène de baiser pendant 6 mois. J'avais une liste de différentes possibilités de comment on renouvelle la chorégraphie d'un baiser, parce que ce dont on se souvient, c'est comment on s'est rapproché, c'est comment c'est arrivé. Et donc le cinéma, il est là pour inventer des nouvelles images autour de ça, quoi, de nous créer des nouveaux souvenirs, possiblement un peu de mémoire même. Et ouais, j'avais une liste de plein de possibilités chorégraphiques. Et puis je me suis dit, ah mais si on dévoilait une bouche comme on dévoile un regard, justement, comment on enlève ses lunettes de soleil. Et c'est là qu'est née cette idée du foulard, qui ensuite, c'est fou, voilà, ça parle bien comment le cinéma crée soudainement des images ou comment les films créent soudainement cette idée du baiser avec ce foulard. Il a engagé le film sur le reste, parce que ce foulard, il a fallu le faire entrer en jeu avant, après. Et ben, il y avait, oui, cette idée là de qu'est-ce que c'est qu'une scène de premier baiser, et comment on peut à nouveau avoir le sentiment que c'est la première fois pour nous au cinéma aussi de voir ça, donc comme un premier baiser, un vrai premier baiser.
Quel en est le titre ?
Portrait de la jeune fille en feu.
On écoutait Céline Sciamma, donc, qui était présente à Cannes à la conférence de presse du festival. Et voilà, elle présentait Portrait de la jeune fille en feu en salle depuis le 18 septembre, tout comme Les fleurs amères, film d'Olivier Metz, qui nous raconte les désillusions de l'émigration chinoise à Paris.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Et croyez-moi, ce ne sera pas long.
Les fleurs amères, film du Belge Olivier Metz, a obtenu le Magritte 2019 du premier film, soit une récompense équivalente au César en Belgique. Le film est surprenant, alors d'abord par son sujet. Hein. S'il se préoccupe de l'émigration, il ne s'agit pas ici d'un pays en guerre ou d'un pays en voie de développement, mais de la Chine. Une partie précise d'ailleurs de la Chine, le Dongbei, à l'extrême nord-est du pays. Alors si cette région a longtemps été une terre d'immigration pour les Chinois à la faveur d'une activité minière importante, elle est maintenant devenue une région d'où on émigre. Alors soit à l'intérieur du pays, soit à l'étranger. Et il se trouve qu'à Paris, eh bien, les riches familles chinoises apprécient les femmes du Dongbei pour la seule raison qu'elles parlent le meilleur mandarin du pays et peuvent donc l'enseigner sans peine aux enfants. Cela ouvre des opportunités et Lina, qui vit avec son mari et son fils dans une grande ville du Dongbei, rêve d'une meilleure vie. Alors ce n'est pas qu'elle est à plaindre, hein, mais 50 mètres carrés, c'est trop peu pour les rêves qu'elle a. Alors très vite, elle part donc à Paris via un réseau clandestin. Il n'est pas question pour le réalisateur belge de nous laisser en Chine. Pourtant, on ne quittera jamais les Chinois. Alors dès lors, sa caméra suit la trajectoire de Lina dans la capitale française. Ce qu'elle y découvre, eh bien, c'est un autre monde que celui qu'on lui a décrit. Là-bas, les familles chinoises qui ont recours à ces nounous, eh bien, les paient en deçà du minimum syndical et les exploitent sans scrupule. Pour rembourser son voyage, après avoir épuisé, eh bien, toutes les démarches, on voit qu'elle est plutôt courageuse, eh bien, Lina va devoir trouver un boulot bien mieux payé qu'elle rechigne à faire et dont elle ne peut parler à son mari et ses proches. Et on devine de quoi il s'agit. Alors, ce voyage qui devait être émancipateur, permettre à Lina, hein, d'avoir de nouvelles perspectives, eh bien, tourne au supplice. Mais de cette histoire qui reflète une réalité pour certaines Chinoises, hein, débarquant à Paris, Olivier Metz ne fait pas un portrait misérabiliste. Bien au contraire, alors plutôt qu'offrir la description de l'agonie d'un personnage prisonnier de ses illusions, le réalisateur filme une fille intelligente, sensible, combattante et les femmes qui l'entourent. Alors c'est l'autre aspect du film. S'il montre que la communauté chinoise n'est pas si unie, les plus fortunés n'hésitant pas à exploiter les autres, eh bien le réalisateur belge a pris la décision de nous placer au sein d'une petite communauté de femmes qui se serrent les coudes. Alors si bien que malgré son sujet, le film est habité alors autant par la gravité que la légèreté, ce qui est sans doute assez rare quand on traite d'un tel sujet où le documentaire, à la limite de la froideur, peut primer. La mise en scène est habilement appuyée par une caméra épaule. Alors là, bon, bah, c'est le chef-op des frères Dardenne qui est derrière, donc forcément... Bah... caméra épaule. Alors ça stimule un récit qui aurait pu être banal ou devenir ennuyeux à force de répétition. Alors bien sûr que Les Fleurs amères est chargé de thèmes socio-économiques, mais on finit par l'oublier. L'épilogue cinglant nous renvoie à d'autres questions plus fondamentales, plus sentimentales, voire plus métaphysiques. Et à ce moment-là, bien la mise en scène d'Olivier Metz, délicate, précise, faite de longues séquences, bien prend tout son sens. Les Fleurs amères, autant vous dire que c'est un film que je vous recommande, film d'Olivier Metz, donc en salle depuis le 18 septembre. Là, maintenant, on passe à la deuxième interview de cette émission. C'est celle de Afzia Herzi, qu'on connaît comme actrice qui a été révélée par Abdelatif Kechiche et qui a réalisé, entendez-vous bien, un film pour 1000 euros qui s'est retrouvé à Cannes. Elle nous en parlera dans une interview, mais avant, Marine nous raconte de quoi il s'agit.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule...
Cinérama.
Je suis allergique.
Lila est amoureuse, Lila est malheureuse, non seulement son copain la quitte, mais en plus il lui ment, et par faire un voyage au bout du monde, la laissant seule dans Paris avec sa déception sentimentale. Commence alors pour la jeune femme une sorte de parcours initiatique, une sorte d'errance dans la ville et dans sa propre vie, au cours de laquelle elle va rencontrer des hommes, au cours de laquelle elle va soigner son mal-être et se reconnecter à ses propres désirs. C'est le premier film de Afzia Herzi qu'on a découvert dans La graine et le mulet de Abdelatif Kechiche. J'ai été très enthousiasmée par ce film. Il y a une vraie spontanéité dans son cinéma, une simplicité qui fait plaisir à voir. Toute la galerie de personnages qui gravitent autour de l'héroïne, puisqu'elle incarne le premier rôle dans son propre film, est interprétée de façon très juste. La direction d'acteur de Afzia Herzi diffère totalement de celle que l'on retrouve habituellement dans le cinéma français. Elle laisse ses comédiens jouer avec leur texte, se l'approprier plutôt que de le réciter à la virgule près, et ça participe à donner au film un côté faussement improvisé qui est très réjouissant. Comme le film de Clapiche, Tu mérites un amour est un film générationnel, mais qui lui par contre n'est pas du tout cliché, sans doute parce qu'il a été écrit et réalisé par une cinéaste qui a l'âge de ses personnages. On écoute tout de suite Afzia Herzi au micro de Cinérama qui parle notamment de la façon dont elle a réalisé et autoproduit son premier film.
Ça, c'est pas l'amour. C'est malade ou quoi?
Moi, j'aimerais bien savoir ce que c'est.
L'amour, c'est pas de se faire tromper, c'est pas d'être avec un menteur, un tricheur.
C'est une fiction, mais c'est quand même, on va dire, de l'observation. Et vraiment une enquête. J'ai vraiment mené une enquête. J'ai interrogé beaucoup d'hommes et de femmes de générations différentes. En fait, quand je me suis rendu compte que tout le monde plus ou moins était passé par là, ou tout le monde avait un rapport compliqué à l'amour, je me suis dit, il faut en faire un film, quoi. Mais vraiment à tout âge, j'ai même un monsieur de 80 ans qui m'a dit, c'est compliqué, et qu'il ne s'était pas remis d'un chagrin d'amour alors qu'il avait refait sa vie. Comme on dit, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. On peut être obsédé par quelqu'un, c'est pas pourquoi. C'est la seule chose qu'on peut pas contrôler. Les émotions, si on avait la notice. Tu veux pas dire qu'il y a quelqu'un d'autre? Pourquoi tu l'as pas dit?
Une raclure comme lui, là, qui te fait du mal pour rien, on dirait t'aimes bien. Lâche l'affaire.
Donc je sais que t'as besoin de temps et je pense que j'en ai besoin aussi. Je vais partir en Bolivie, pendant 3 semaines.
C'était important pour moi de ne pas les juger, quoi. Voilà, chacun a ses défauts, ses qualités. Même Rémi, qui est infidèle, qui ne sait pas où il en est. Avant tout, je pense qu'il est malheureux et perdu, quoi.
Le vrai truc, c'est que tu l'oublies, c'est con à dire, et que tu tombes amoureuse ailleurs.
Ça te dirait de prendre mon numéro, on va boire un verre, quelque chose? T'as déjà été amoureuse?
Ah bah oui.
Comment tu le sais?
J'ai écrit le scénario, j'ai commencé en 2007. En 2013, j'ai eu un prix pour le scénario. Et je devais le tourner en 2014, après 2015 et 2016, et ça s'est pas fait. Et du coup, j'en avais marre d'attendre. Et en même temps, ça faisait un moment que je voulais faire un film comme ça. Me lancer dans la production, l'autoproduction, et relever le défi de faire un film en peu de temps, avec peu d'argent et des inconnus.
Il est parti faire le tour du monde et toi t'es resté dans ta dépression.
Il doit être en train de se branler sous une yourte.
Depuis longtemps, je me dis il y a quand même parfois sur le tournage beaucoup d'argent dépensé pour rien. Donc essayons de faire un film avec peu, quoi, mais avec passion et détermination. Et vu que j'attendais c'est les financements, je me suis levée un matin et je me suis dit c'est maintenant, quoi. J'en avais marre de reporter à chaque fois, mais ça fait longtemps que je veux faire ça. Un film comme ça à l'arrache, avec 1000 euros en poche, Ah non, on n'a rien eu, c'est du jamais vu. On a fait avec ni maquillage, ni coiffure, ni script, ni déco, ni accessoires, ni costumes, rien du tout. Bah après, voilà, on n'a pas payé les décors, on a réussi à tourner dans des endroits, des commerçants nous ont laissé, on a négocié. J'ai payé personne dans un premier temps, mais après, vu que le film a été à Cannes, acheté par Arte, j'ai pu voilà, payer tout le monde. Mais on va dire que le but du jeu, avant tout, c'était d'aller au bout de cette expérience-là, en fait.
Il disait quoi ?
Qu'on s'est connus dans une autre vie, tout ça.
Tu m'as dit ça, toi aussi.
Vu que j'avais pas de production derrière moi, que c'était moi qui décidais de tout, donc j'avais de la liberté parfois de réécrire. En fait, j'ai fait en 3 fois 5 jours, donc 5 jours en juillet, en août et en septembre. Et après, j'ai réécrit en fonction des décors aussi, et oui, des personnalités qui m'inspiraient. Donc en fait, c'était cette liberté-là, quoi. Je pouvais modifier, écrire, réécrire des scènes sur place, sans qu'on me dise non, mais là, c'est pas possible, ça, c'est pas possible. Non, c'est vraiment amusé. Je trouve que ça sent dans le film, quoi. Parce qu'il y a des films, parfois, on voit que les gens, ils sont pas trop contents d'être là.
J'ai envie qu'on se remette ensemble. Je t'aime encore.
C'est pas facile. Je suis pas toi, moi.
Voilà, nous écoutions Avzia Herzi au micro de Cinérama. Elle nous parlait effectivement de son film qui a coûté 1000 euros. Alors, il est évident que c'est le tournage, hein, puisqu'après, donc Arte est arrivé et a assuré une promotion comme on l'attend d'un film qui est maintenant dans les salles. Allez, on termine cette émission avec un documentaire, celui sur une des plus grandes artistes au monde. C'est la japonaise Yayoi Kusama.
This is Cinérama.
Et ça, c'est clair.
Pour celui qui crée, tout est un pari, un saut vers l'inconnu. Alors nul ne saurait mieux définir l'acte de création que l'intéressé, Yayoi Kusama, surnommée la princesse des pois Pokai, que ces mots qui ouvrent Kusama Infinity, documentaire partial qui tente de réparer une injustice flagrante, rétablissant le statut précurseur de la peintre japonaise. Alors relativement méconnue du grand public, elle demeure pourtant l'artiste contemporaine la plus célébrée et la plus vendue du monde de l'art. Et pourtant, cette dame excentrique de 90 ans, tout droit sortie d'un manga, physiquement, hein.
C'est vrai.
Reste un mystère, une icône fantomatique éclipsée tout au long de sa carrière par des figures plus prestigieuses en termes de médiatisation comme Andy Warhol, Jasper Johns ou Mark Rothko. Alors, rendre hommage à l'artiste de son vivant s'avère une approche pertinente, une volonté sincère, pas seulement de réhabilitation, mais de sensibilisation de son art vers un public plus large. Encore faut-il se déplacer au cinéma pour voir Kusama Infinity, documentaire distribué par Eurozoom, hein, spécialisé dans la découverte de pépites de l'animation japonaise. Car pour toucher une audience de plus grande affluence, une diffusion sur Arte semblait peut-être plus pertinente. Le documentaire appliqué de la quasi-débutante Heather Lenz, hein, ne rend pas toujours justice au talent foisonnant et psyché d'une artiste qui s'est battue durant toute sa vie à l'encontre des conventions et de toute forme de conformisme, imposant sa personnalité hors norme dans un milieu beaucoup plus fermé qu'on ne pouvait le concevoir. Alors sans aucune prise de risque, hein, la réalisatrice, alors sans doute impressionnée devant l'aura hypnotique de la peintre, s'est contentée d'une construction linéaire déroulant chronologiquement une biographie riche en péripéties romanesques. Alors cette hagiographie, hein, qui manque parfois de point de vue critique et de distance, avec une propension à transformer les zones d'ombre en vertus créatrices, débute par l'enfance de Kusama, qui a reçu une éducation très conservatrice dans une famille traditionnaliste. Cadette d'une famille aisée, d'une fratrie de 4 enfants, elle se passionne très tôt pour la peinture afin d'échapper à la fois au réel et aussi aux hallucinations dont elle est victime. L'introduction alterne des photos noires et blancs d'époque avec des interventions croisées entre Kusama, incroyablement dynamique pour son âge, et des spécialistes de l'art, entre historiens et critiques. Alors le film se concentre sur sa carrière de peintre et de sculptrice, laissant volontairement en suspens ses activités annexes comme l'écriture et la musique qui ont néanmoins joué un rôle majeur dans son existence. Le syndrome, alors un peu Wikipédia, on va dire, affleure la démarche de la jeune réalisatrice qui ne se démarque pas de la profusion de documentaires traités sur le même mode opératoire. Devant l'invention permanente d'une artiste en perpétuel mouvement, toujours à l'affût de l'avant-garde, la pauvreté visuelle du film peut gêner, d'autant que pour susciter une empathie permanente, un emploi redondant d'une musique sirupeuse, surlignant les moments tragiques, finit par agacer. Alors paradoxalement, cette forme très consensuelle, un peu scolaire, permet néanmoins d'accrocher le regard sur un parcours atypique d'une vraie combattante, victime de racisme et de misogynie à l'intérieur d'un microcosme intellectuel que l'on pouvait penser plus progressiste. Son exil aux États-Unis à la fin des années 50 pour fuir un Japon qui ne pouvait tolérer sa présence ne l'a pas propulsée au devant de la scène alors qu'elle était à l'avant-garde de l'avant-garde, entre ses sculptures souples, ses délires phalliques, ses peintures sur des corps nus, sa célébration du mariage homosexuel sous forme d'happening avant tout le monde en fait, et puis sa violente critique de la marchandisation de l'art. Bref, ce petit bout de femme peut se vanter d'avoir été une rebelle au sens brut tout au long de sa vie, obsédée par le sexe et la nudité, une vraie punk sans concession qui a cessé de remettre en cause l'ordre établi. Voilà, donc Alice Erlein signe, on va dire, un passionnant documentaire sur le fond qui ravira surtout les néophytes, mais qui s'en tient à une recette convenue, plus pédagogique qu'artistique. Si l'on apprend beaucoup de choses, rares sont les moments par contre où l'on voit Kusama au travail. Alors cette dimension pourrait faire l'objet d'un autre documentaire davantage centré sur le processus créatif.
Voilà, et je vous encourage à aller voir les images, parce que peut-être que vous ne connaissez pas le nom, mais il y a forcément...
Il y a des choses qui sont très...
Il y a forcément des œuvres qui sont connues, voilà. C'est une grande artiste.
C'est fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
C'est pas possible.
Si, je vous assure.
Bon, vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez-moi le camp !
La semaine prochaine, je vous parlerai de Bakurao, prix du jury au dernier festival de Cannes, et puis d'un film qui a été aussi projeté à Cannes, Poor Authority. Et vous ?
Eh bien, moi, je vous parlerai de Ceux qui travaillent avec Olivier Gourmet, et puis d'une reprise d'un film fantastique, Long Weekend.
Et moi, je vais vous parler de Ceux qui vont dans l'espace avec Ad Astra, le nouveau film de James Gray avec Brad Pitt. À la semaine prochaine.